Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est la plus vieille carte du ciel connue au monde, un document chinois du 8e siècle qui décrit parfaitement les connaissances de l'Empire du Milieu. Et c'est évidemment un document spectaculaire de l'histoire de l'astronomie qui vient d'être mis en lumière par l'étude d'un groupe de chercheurs conduit par vous. Bonjour Jean-Marc Bodébideau.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA à l'IRFU et on va parler de cette carte du ciel, on va dire redécouverte, alors qui a une histoire assez extraordinaire parce que cette redécouverte, où est-ce que vous la faites vous personnellement ?
Eh bien, moi, je la fais à la British Library, c'est-à-dire anciennement le British Museum, qui a un fonds d'ouvrages qui ont été transportés à la British Library, qui a été créé, je crois, dans les années 2000 à Londres. Et je localise le document là, il y a déjà quelques années.
Donc, vous découvrez cette carte du ciel dans un musée. Est-ce qu'elle a été oubliée ? Est-ce qu'elle a été, entre guillemets, perdue ?
Exactement. C'est un document qui a été oublié. Et je pense que ça arrive à beaucoup de documents, malheureusement, on devrait s'en souvenir. Alors, l'oubli de cette carte, il est paradoxal. Parce que, en fait, cette carte, si vous regardez les quelques encyclopédies ou ouvrages qui vous parlent d'histoire d'astronomie assez profondément pour aller jusqu'à l'astronomie chinoise, elle est souvent représentée. Donc, elle n'était pas totalement oubliée puisqu'on connaissait son existence. En revanche, elle avait été totalement oubliée dans son analyse et son étude. C'est-à-dire que le document n'était dans une des caves de la British Library, dans un coffre même, et personne n'avait fait l'analyse de cette carte.
C'est parce que c'est un travail d'historien des sciences et d'historien de l'astronomie, et ça, il n'y en a peut-être pas beaucoup.
Voilà, c'est effectivement une des difficultés. Hein. C'est forcément une étude pluridisciplinaire. C'est une carte écrite en chinois, donc il faut connaître le chinois et, pour certains aspects, le chinois ancien, puisque là, vous l'avez dit, la carte date du 7e siècle. Ensuite, il faut connaître l'astronomie, parce que là, ce sont des étoiles qui sont représentées. Et en fait, il faut connaître l'histoire de la Chine pour savoir la situer. Alors évidemment, moi, j'ai apporté mes contributions d'astrophysicien et d'astronome, tout en ayant un tout petit peu de connaissance de la Chine, puisque j'ai passé un petit peu de temps en Chine.
Alors, on va suivre le parcours de cette découverte d'abord, avant de voir quel est le résultat de la redécouverte, et finalement, que dit cette carte de l'astronomie chinoise, et je dirais des connaissances des Chinois à cette époque ancienne. Tout d'abord, l'histoire de la découverte de cette carte au milieu d'autres manuscrits est assez extraordinaire. Où est-ce qu'on découvre ce document ?
Eh bien, on découvre le document sur la fameuse route de la soie, qui est quand même une route emblématique, cette route qui relie l'Europe occidentale à la Chine, qui a été employée depuis les Romains, et qui a toujours servi pour le passage des marchandises, des connaissances également, jusque, disons, au XIIIe ou XIVe siècle, où elle a été relativement abandonnée. Et cet endroit est terrifiant en Chine, notamment dans la partie qui rentre en Chine, c'est ce qu'on appelle le désert de Taklamakan. C'est le désert le plus aride de la planète. Et on sait que dans ce désert, des cités entières ont été englouties par les sables et des archéologues, depuis des décennies, recherchent ces cités englouties. Alors, cette carte a été trouvée dans une des villes à la sortie de ce désert de Taklamakan. Cette ville s'appelait Dunhuang et dans un monastère bouddhique. Alors, ce monastère, en fait, il a une étrange histoire parce qu'il a été fermé en l'an 1000. C'est-à-dire, depuis l'an 1000, il n'était plus occupé. Il a été occupé de l'an 400 à l'an 1000. Donc, on sait très très bien la période dans laquelle il a été occupé. Ensuite, il a été fermé sans doute parce qu'il y a des invasions venant de l'Ouest qui ont effectivement fait que l'Empire chinois s'est rétréci vers sa partie centrale. Et en fait, c'est tout fin du 19e siècle qu'un moine, ce sont des très très belles grottes. Alors, il faut dire que c'est vraiment un monastère en lui-même somptueux qui est devenu un joyau de l'architecture mondiale. Ce sont des grottes ornées, des grottes bouddhiques ornées, où il y a des statues de Bouddha, où il y a des peintures de toutes les couleurs qui sont effectivement dédiées à la célébration du bouddhisme. C'est vraiment, il y a 500 grottes toutes décorées. Elles ont relativement bien survécu parce que le climat est aride, peu d'humidité. Et donc, un des moines qui redécouvre ça à la fin du 10e siècle, parce que finalement, il cherchait peut-être un endroit pour se retirer, les remet en état les unes après les autres et il tombe sur la grotte 16, sur un mur qui sonne creux. Et là, il est étonné, il tape, ça sonne creux, il casse le mur et qu'est-ce qu'il trouve ? Une cache qui contient 40 000 manuscrits, 40 000 rouleaux inscrits à la main, évidemment, ce n'est pas d'imprimerie, dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'on a dénombré plus de 20 langues. Il y a du chinois, bien sûr, en priorité, du tibétain, du sogdien, du bactrien. Certaines de ces langues ont disparu. C'est le seul document que l'on possède dans ces langues-là.
C'est la plus ancienne librairie du monde, en fait, qu'il découvre, bibliothèque.
Certainement sur papier. Parce qu'évidemment, effectivement, vous savez qu'en Europe, on a découvert le papier beaucoup plus tard. Et ces manuscrits datant entre 4e siècle et 10e siècle sont effectivement des manuscrits somptueux. somptueux, sur un support qui a bien évidemment survécu, qui est le papier, et inscrit. Alors, la plupart de ces textes, il faut toujours tout de suite dire, concernent plutôt les histoires des religions. Ce sont des sutras concernés aux bouddhistes. J'ai dit que c'était pas des documents imprimés, je corrige tout de suite, puisqu'on a quand même découvert là le premier livre imprimé qui date de 650, je crois, avec des blocs de bois. Hein. Donc, on a aussi la preuve qu'effectivement, l'imprimerie commençait déjà à cette période.
Alors, j'imagine que l'écho dans le monde est extraordinaire, que les archéologues se précipitent. Que se passe-t-il ?
Alors, c'est ça, parce qu'évidemment, cette époque-là, c'est la fin de l'Empire chinois. C'est déjà les périodes des guerres de l'opium. Donc, les Occidentaux sont autour de la Chine et il y a un certain nombre d'archéologues qui ont vent de ça, par un biais ou un autre, et qui se précipitent. Alors, toutes les nationalité, il y aura les Anglais, il y aura les Français, les Russes, les Japonais. Et ça va en fait aboutir à quelque chose de dommageable pour ces documents, c'est qu'ils vont être dispersés dans toute la planète.
C'est un pillage.
C'est un pillage. Alors, on a l'exemple donc de celui qui va rapporter en Angleterre la carte qui nous intéresse, qui s'appelle Orenstein. Il est hongrois d'origine. Il arrive. Alors, lui, il est à la recherche de ces cités englouties, justement. Mais il entend parler. Il passe à Dunhuang. Il va là. Il ne connaît rien au chinois, mais il voit ses manuscrits. Il en embarque 25 caisses à dos de chameau, route vers Londres. Elles arriveront à Londres, effectivement, quelques mois plus tard. Et donc, il viendra ensuite un sinologue très célèbre qui s'appelle Paul Pelliot, français. Il fait la même chose, il emmène ça à la Bibliothèque nationale de France et le lieu est pillé, c'est-à-dire que les Chinois se retrouvent avec une fraction minime de tous ces manuscrits qui sont maintenant éparpillés dans tout le monde.
Alors, un jour, quand même, dans les années 50, quelqu'un s'intéresse à cette carte et publie au moins l'information et peut-être même les dessins de cette carte. Alors, dites-nous à quoi ressemble la carte elle-même physiquement et qu'est-ce que l'on voit dessus ?
Alors, le manuscrit est très très joli à observer. C'est un long rouleau de 4 mètres de longueur, hein, d'une hauteur assez petite, 25 cm seulement. Et donc, il est clairement en deux parties, en moitié-moitié pratiquement. 2 mètres sont consacrés à des dessins de nuages avec en dessous des textes qui font des pronostics sur ce qu'on doit annoncer si on voit tel ou tel nuage. Donc, c'est effectivement la météoromancie, comme on le dit. Et la deuxième partie, de longueur à peu près de 2 mètres, est constituée par cette carte d'étoile. Et cette carte d'étoile est ordonnée, très très strictement ordonnée, c'est-à-dire qu'elle est faite évidemment totalement manuscrite, mais on y trouve les constellations bien sûr chinoises. Il faut rappeler que les Chinois n'avaient pas du tout évidemment la même représentation du ciel, à la différence des Grecs qui nous avaient légué 49 ou 48 constellations, je crois, dans l'hémisphère nord. Là, ils en ont 283. Sur la carte, il y en a 257, des petites constellations qu'utilisaient les Chinois, avec chacune leur nom. Et en fait, cette carte, ce qui rend sa lecture très aisée et très moderne, elle est présentée en 12 panneaux. 12 panneaux verticaux, on pourrait dire, qui représentent 12 mois de l'année, chaque mois donnant la position où est le soleil à ce mois de l'année, et avec son fond d'étoile. Si vous...
c'est pratiquement les signes zodiacaux avec
exactement.
Le déplacement du soleil.
À ceci près qu'on pense, et on le sait, que dans l'astronomie chinoise, justement, le zodiaque ne faisait pas figure de grande référence. Il s'attachait beaucoup à l'équateur, ce que les astronomes utilisent à l'heure actuelle, l'équateur céleste. Et donc, c'est le long de cet équateur que sont distribués ces panneaux où toutes les constellations chinoises sont marquées en plusieurs couleurs, ce qui nous a d'ailleurs permis de remarquer qu'elles étaient bien issues de catalogues plus anciens, hein, qui dataient effectivement environ moins 200 voire moins 400 avant notre ère, de 3 écoles d'astronomes qui avaient effectivement comptabilisé ces constellations. On les retrouve avec 3 couleurs dans la carte. C'est une grosse tradition en Chine de conserver ces catalogues.
Quel est le principe de la représentation du ciel en Chine, puisque vous nous dites 283 constellations? Est-ce qu'on y trouve des animaux mythiques? Est-ce que les Chinois ont inventé une constellation, une pléiade de représentations mnémotechniques comme on les connaît sur notre ciel à nous? Quelle est la logique?
Il y a une très très grande logique pour le coup. Parce qu'en fait, il faut bien voir que l'astronomie en Chine, c'était une astronomie d'État. C'est-à-dire l'empereur, il faut savoir que l'empereur, c'est le fils du ciel, c'est sa dénomination. Il est d'ailleurs représenté dans le ciel par le pôle Nord. Et donc, autour de ce pôle Nord, pour prendre cet exemple-là, il n'y a pas des constellations qui figurent des animaux mythiques ou des mythologies ou des dieux. Il y a la cité interdite avec tous les éléments de la cité interdite, la cuisine de l'empereur, le lit de l'empereur, le conseiller, la concubine, la princesse, en fait, tous les notables tables sont représentées dans le ciel, chacun ayant sa constellation. Et ça n'était pas neutre pour les Chinois, parce que dans la philosophie chinoise du ciel et de la terre, du yin et du yang, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que pour le Chinois, le ciel n'est pas un univers extérieur à l'homme, c'est l'autre moitié de la terre, on pourrait dire, et il reflète totalement la terre. C'est-à-dire qu'on doit retrouver dans le ciel l'équivalent de l'Empire chinois. Et donc, chaque région de l'Empire chinois est dans une région du ciel. Et alors, il y avait une utilisation, disons, diplomatique et politique qui était faite, c'est que les Chinois observaient les événements qui se passaient dans le ciel, et quand il se passait dans le ciel, donc dans une partie de l'Empire chinois, quelque chose d'anormal, on s'attachait à regarder sur l'Empire terrestre les responsables de cela. Donc en fait, c'était effectivement une forme d'astrologie, mais à l'échelle de tout un pays.
Quand vous dites qu'il se passait quelque chose, vous pensez à quoi ? L'arrivée d'une comète, une supernova ?
Exactement, puisque c'est évidemment la particularité chinoise qui a bien servi tous les astronomes modernes, puisqu'on a été rechercher ces textes par la suite. Les Chinois sont les seuls à l'échelle du globe à avoir tenu un compte très précis de tous les phénomènes, disons, sporadiques qui apparaissent dans le ciel. Toutes les comètes, il faut savoir que la comète de Halley, tous ces passages sont répertoriés dans les chroniques chinoises, les explosions d'étoiles, les novas, les étoiles variables, tout ça a été répertorié et localisé. Et justement, c'était intéressant. On pourrait se demander pourquoi un si grand nombre de constellations. Je pense qu'au-delà de la représentation de l'Empire chinois dans le ciel, il y avait la volonté pour les Chinois de localiser très rapidement un endroit du ciel. Il est évident qu'une grande constellation comme Pégase, qui fait plusieurs dizaines de degrés carrés, vous ne pouvez pas dire c'est dans Pégase, vous n'avez rien dit. Si vous dites que c'est dans la constellation des quatre conseillers qui fait quatre étoiles dans le ciel dans un tout petit engin, vous savez tout à fait où est votre phénomène.
Alors, dans l'article que vous publiez dans Nature et puis dans d'autres publications récentes, vous vous étonnez de la qualité à la fois de la projection, de la représentation du ciel. Il s'agit quand même de projeter la voûte céleste sur un plan, et je dirais qu'on a réussi à le faire fort tard en Occident. Là, on est quand même au 7e siècle. C'est-à-dire que les Chinois maîtrisaient la représentation d'une carte du ciel sur un plan.
Eh bien, écoute, c'est la grande surprise, parce qu'effectivement, déjà, quand on voit le document, on est étonné parce qu'il est très bien ordonné. Donc, on se dit, effectivement, ça n'a pas été fait au hasard. Ce n'est pas juste un relevé manuel. Mais ensuite, on s'est prêté à un exercice qui était relativement simple à faire, c'est de noter les positions des étoiles sur la carte et les comparer à ce qu'on connaît de leur position dans le ciel. Mais alors, pour faire ça, effectivement, on passe à travers ce qu'on appelle une projection mathématique. Comme vous venez de le rappeler, il faut projeter une sphère sur un plan, ce qui n'est pas une opération mathématique très simple. Alors, on a testé deux ou trois des projections les plus simples, et on s'est aperçu qu'effectivement, pour les étoiles les plus brillantes, il faut quand même faire un petit bémol, parce que certaines des constellations sont assez un peu fantaisistes, mais pour les étoiles les plus brillantes, elles correspondaient donc à des projections parmi les plus simples, mais quand même qui relevaient de formules mathématiques. Dans un cas, c'est ce qu'on appelle une projection cylindrique, ces panneaux sur une projection cylindrique, voire dite de Mercator, puisqu'elles ont été inventées effectivement au XVIe siècle par un cartographe qui s'appelait Mercator en Europe. Et pour, j'ai oublié de le signaler, là, il y a une partie du ciel qui vient dans une carte circulaire, qui est la partie autour du pôle, justement. Et cette carte, on l'a analysée, elle est projetée selon une projection qu'on appelle azimutale. Et on a pu vérifier que l'ordre de précision était de quelques degrés sur un document relativement petit. Donc finalement, c'était assez difficile de conserver cette précision.
Qu'est-ce que ça suppose quand on voit cela ? Une connaissance mathématique importante, géométrique, quelque chose qui a disparu ?
Oui, tout un ensemble. Enfin, je pense qu'on est assez... Enfin, rétrospectivement, on est moins étonné. On parlera peut-être tout à l'heure de l'auteur présumé de cette carte. Mais il semble bien qu'on le sait, et il y a des livres entiers que l'on a conservés qui traitent des techniques mathématiques, que les Chinois maîtrisaient effectivement assez bien ces méthodes mathématiques, et aussi, évidemment, bien l'observation du ciel, puisqu'effectivement il livre un luxe de détails. Il y a sur la carte 1339 étoiles. Donc effectivement, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, on pense que le ciel était sans doute beaucoup plus pur qu'à l'heure actuelle, parce que certaines de ces étoiles sont relativement faibles à observer et pratiquement inobservables à l'heure actuelle dans les cieux modernes.
L'astronomie en Chine est une science d'État.
C'est ça. C'est pour ça qu'elle a perduré. Il faut rappeler quand même que c'est le seul pays au monde à avoir maintenu une astronomie sur plus de 4000 ans. Si vous voyez l'astronomie que l'on a en fait dans les autres parties du monde, c'est quelques centaines d'années avec les Grecs, quelques centaines d'années avec ce qu'on appelait l'astronomie islamique aux alentours du Xe siècle, et puis quelques centaines d'années, on vient de fêter le 400 ans de Galilée, dans l'époque moderne. Et bien, le seul pays au monde qui a depuis 4000 ans, puisqu'on a des observatoires qui datent de moins 2000 jusqu'à pratiquement la fin de l'Empire chinois et encore maintenant évidemment, ces 4000 ans d'astronomie continuent. Et c'est ça l'important, parce que les textes sont repris les uns après les autres. Donc c'est pour ça qu'on est capable de retracer la trajectoire de Halley jusqu'à moins 500 de notre ère. C'est pas par hasard, on a tous les passages. Et donc ça, c'est totalement exceptionnel à l'échelle du monde.
Quelle est la précision de la position des étoiles respectivement les unes par rapport aux autres sur cette carte?
Alors, donc je l'ai signalé, elle est relativement variée. Pour les étoiles les plus brillantes, ce qui crée l'ossature de la carte, c'est de l'ordre de quelques degrés. Ce qui est pas mal du tout, parce que je vous rappelle, le document est petit dans sa taille. C'est pas un grand document. Donc, on voit que c'est un document d'ordre scientifique, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que c'était juste un petit mémo astrologique. À consonance astrologique, certes, puisqu'il comporte cette divination au départ, et ça, c'est tout à fait dans la tradition chinoise. Et il est accompagné aussi de textes très scientifiques. Chacun des panneaux qui, je vous le rappelle, présente chaque mois, a une espèce d'éphéméride. C'est-à-dire, on vous dit, dans ce mois-là, la constellation qui est au lever du soleil, celle qui est au coucher du soleil et celle qui passe au méridien dans le milieu de la période. C'est une donnée astronomique scientifique, si vous voulez. Donc, on voit que là, ça n'était pas effectivement l'œuvre de quelques philosophes, si vous voulez, mais d'une grande caste de scientifiques qui étaient d'ailleurs payés par les empereurs pour observer, je vous le rappelle, chaque nuit le ciel pour détecter éventuellement ces phénomènes sporadiques.
Dans le ciel chinois, il y a 5 points cardinaux. On n'est pas très habitué. Hein.
Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les 4 que l'on connaît, plus le centre, le milieu du ciel, effectivement. Et c'est tout à fait ça qu'ont gardé les Chinois. Il y a 5 points cardinaux, donc les 4, nord, sud, est, ouest, et le centre, le milieu. Donc c'est effectivement... on a toute une tradition, d'ailleurs, qui est très, très structurée, qui est très intéressante intellectuellement à évidemment analyser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué, effectivement, ces études sur l'astronomie chinoise, en dehors de leurs caractéristiques précieuses, puisque finalement, ce document, dans l'histoire de l'astronomie, c'est un petit peu comme la grotte de Lascaux, si vous voulez. Il y a eu d'autres grottes, il y a eu d'autres peintures, mais les plus anciennes que l'on ait, c'est celle-là.
Alors, le grand débat, et vous êtes intéressé, vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, de savoir de quand dater cette carte-là. Alors là, je trouve absolument magnifique la façon dont vous êtes arrivé à une datation qui est extraordinairement précise. Comment avez-vous fait ?
Eh bien, écoutez, oui, c'était une enquête, une vraie enquête policière, parce que, alors, donc, d'abord, la malchance qu'on a eue, c'est que le document dans son entièreté est relativement bien conservé, sauf le début, parce que le début, évidemment, fait la peau extérieure du parchemin quand il est roulé, si vous voulez. Et donc, il est détruit. Normalement, on aurait dû trouver un titre et un auteur. Ça nous aurait bien avancé. Donc, on n'avait pas ça. Alors, on a investigué, on a lu le document dans son entièreté, jusqu'à localiser, et ça, on s'est aussi appuyé sur des études chinoises. Je dois signaler qu'un certain nombre de travaux avait été fait antérieurement en Chine, publié uniquement en langue chinoise. Donc, on est remonté aussi à ces éléments-là, qu'on a vérifié effectivement nous-mêmes. Et on a trouvé une annotation d'un astronome connu d'une certaine époque, donc qui va nous donner un intervalle de temps, qui s'appelait Li Chunfeng. Et cet astronome était aussi un mathématicien. Il a surtout écrit un ouvrage très célèbre qui s'appelle Les Neuf Chapitres, qui est un ouvrage de problèmes mathématiques. Et dans la partie consacrée aux nuages, on a une mention, comme le dit votre serviteur Chunfeng, etc., etc.
Donc limite inférieure.
Alors voilà, donc on est déjà, alors celui de Chunfeng, ses dates exactes, il est né en 602, il est mort en 670. Donc on a une espèce de cadre. On pense que c'est lui parce qu'il y a trop de caractéristiques qui le font capable de produire cette carte. Mais ensuite, c'était pas tout. Il a fallu effectivement avoir d'autres éléments. Alors, il y a eu un élément très amusant à utiliser et qui nous a donné sans doute l'intervalle de temps le plus intéressant. C'est ce que les Chinois appellent les caractères tabous. Alors, c'est lié à une tradition en Chine de respect par rapport à l'empereur. Vous savez que les noms s'écrivent avec des caractères. Et les caractères qui forment le nom de l'empereur en règne ne doivent pas être utilisés dans les documents officiels. Comme on a besoin de ces caractères, évidemment, on en fait une version légèrement modifiée. On modifie un petit trait. ce que savent reconnaître les érudits chinois, que tel caractère est modifié. Donc, si vous avez un caractère modifié, vous savez que vous êtes soit pendant le règne de cet empereur, soit légèrement après. Et on a localisé effectivement à la fois des caractères modifiés, des caractères non modifiés. Donc, ça nous a donné un intervalle de temps entre le début de règne d'un empereur et l'avènement de l'empereur dont on a vu les caractères non modifiés. Et cet intervalle de temps est entre 649 et 684. Donc, par la pure tradition chinoise, on a aussi un élément de cette datation.
Est-ce que les positions des étoiles sur la carte auraient pu vous aider aussi à, je dirais, repérer un indicateur temporel ?
Oui, bien évidemment, puisqu'on sait que, évidemment, le pôle céleste varie. Hein, on sait que la Terre, avec son mouvement de précession, fait que l'emplacement du pôle n'est pas toujours au même endroit. Et donc, en quelques centaines d'années, il varie un petit peu, mais suffisamment pour que, d'ailleurs, les Chinois l'aient noté dans leurs anciens textes. Alors, quand on a utilisé la carte circumpolaire, hein, celle autour du pôle, on a eu l'espoir de pouvoir déterminer une date grâce à cela. On a donc déterminé le centre géométrique de la carte en espérant que ça nous donnerait une précision sur le pôle. Malheureusement, vous comprenez qu'il n'y a pas suffisamment d'étoiles et la précision est quand même suffisamment grande pour nous dire qu'on est entre 600 et 800 sans aucune précision supplémentaire. Donc, la datation astronomique n'a pas été très, très convaincante.
Les Chinois connaissaient la précession des équinoxes ?
Alors, ils la connaissaient, bien sûr, depuis très longtemps, non pas strictement dans son phénomène, le phénomène qui donne naissance à ça, c'est-à-dire le fait que la Terre tourne autour d'un axe qui se déplace, mais ils le connaissaient parce que eux, consacrant la totalité de leur observation du ciel, notamment à la région du pôle, puisque le pôle était l'empereur, et vous comprenez qu'il fallait observer cette région particulièrement, ils s'étaient aperçus au cours des millénaires que l'étoile qui était l'empereur à un moment donné n'était plus tout à fait l'empereur à un moment après. Et il y a au moins trois caractères, trois constellations différentes, Tai Yi et Tianze, qui montrent la position du pôle au cours des âges. Et on peut retracer, grâce à l'observation chinoise, le mouvement des pôles. Et donc, ils avaient effectivement, ils étaient très, très conscients des mouvements de précession.
Donc, on est vraiment convaincu aujourd'hui qu'il s'agit de la carte la plus ancienne.
Ça, c'est sans commune mesure, évidemment.
On ne trouve pas de, de prédécesseur, si je puis dire.
Voilà. Alors, évidemment, il n'est pas raisonnable de dire que cette carte est la plus ancienne qui a été jamais produite. Oui. Certainement, il y a eu sans doute des cartes antérieures, y compris dans le monde chinois et peut-être dans le monde grec. Mais c'est la plus ancienne existence, ça on en est sûr, qui est à notre connaissance. Peut-être un manuscrit traîne encore dans une bibliothèque qui n'est pas analysée. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on a relativement peu de documents de cette sorte. C'est ça qui est étonnant dans l'histoire de l'astronomie. Quand même, c'est la carte du ciel, c'est un élément crucial. Eh bien si on regarde bien pour les Grecs, qui effectivement faisaient une astronomie un peu théorique, bon, la position des étoiles, bien sûr, on a le catalogue d'Hipparque repris par Ptolémée, oui. Mais donc il n'est pas porté sur une carte. On dit, et ça il faudrait vérifier, parce que Dieu sait si des textes grecs qui nous ont été transmis par des traductions très ultérieures ont été sans doute altérés, que Ptolémée aurait produit une carte, donc c'était une possibilité, mais on ne l'a pas trouvée, et nulle part n'existe vraiment de traces de cette carte. Et ensuite, c'est en Chine qu'on trouve, quelques siècles après celle-ci, un vrai développement de cartes très très élaborées, bon, donc il existe encore un certain nombre connus. Alors, dans cette période de temps, et jusqu'à cette période de temps, qui donc, on va dire 650, eh bien, aucun élément de ce type-là nous est disponible. Et alors, il y a eu des débats, parce que si vous voulez, nous, on a essayé d'éclaircir ça dans l'article qu'on a publié, parce qu'il nous paraissait important de remettre les choses dans un certain ordre. On cite souvent deux objets, ce sont des objets, d'ailleurs, ce ne sont pas des cartes, qui sont emblématiques de ce qu'on appelle des constellations et des cartes du ciel. L'un est ce qu'on appelle le zodiaque de Dendera, qui est un zodiaque, qui est un plafond de temple qui a été ramené par les Français au moment de la conquête napoléonienne, qui est actuellement au Louvre. Alors, ce zodiaque, certes, il montre des figures zodiacales avec des dessins, donc sur un ensemble du ciel. Mais il n'y a que les dessins, si vous voulez. Et c'est un mélange entre les constellations égyptiennes et les constellations latino-grecques. Donc, aucune position d'étoile. De la même façon, le deuxième objet qui est intéressant, qui a été récemment étudié, c'est ce qu'on appelle le globe de Farnèse, qui est actuellement au musée archéologique de Naples, qui est un globe porté sur une statue de Zeus, qui effectivement, de la même façon, montre des dessins gravés dans le marbre. C'est un globe de marbre gravé, mais on n'a que des constellations. On a le lion, on a le taureau, etc. Aucune trace des étoiles. Donc, on ne peut pas considérer que ce sont des cartes d'étoiles, parce que là, on peut vraiment faire une analyse de la position, de la répartition dans l'ensemble du ciel.
C'est vrai que sur la planisphère impériale, on dirait vraiment un ancêtre des cartes d'Hipparchos. Hein,
Mais alors si vous voulez, exactement, je pense que si on fait le parallèle, la carte dont on parle, celle de Dunhuang, Dumang, l'atlas céleste de Dumang. Vous pouvez le comparer à une carte moderne, mais donc de la Terre, parce qu'on fait souvent, plus souvent ça. Vous avez une carte de la Terre, vous avez un rectangle, hein, qui est le développé le long de l'équateur de tout ce qu'on voit, et c'est complété par deux cercles qui sont les deux pôles. Eh bien, cette carte-là, ce sont ces méthodes-là. Elles ne diffèrent en rien des méthodes modernes. Or, on est évidemment bien, bien avant, évidemment, les cartographes modernes d'Europe occidentale. Donc, c'est très, très étonnant. Il y a cet esprit scientifique chez les Chinois que l'on dénie souvent à la culture chinoise, parce que c'était plus des... On les traite toujours d'empirique, mais là, ils ont effectivement des méthodes d'analyse et de synthèse. Ce document, c'est un vous comprenez, c'est un document qui est emmené, parce que c'est un document portable évidemment, c'est pas un... après on aura des choses gravées dans le marbre et gravées sur des stèles, c'est un document portable, c'est un document stratégique. Tel général peut se prémunir de dire voilà, il s'est passé quelque chose, donc c'est très très précieux. On emmène tout ça, c'est très précis, c'est condensé. Hein, il y a tout ce qu'il faut savoir. C'est comme si on avait un mémo de poche, si vous voulez, de, bon, je ne sais pas quoi, de toute la géométrie d'Euclide.
Et ça démontre de façon éclatante l'avancée de l'astronomie chinoise.
Elle est indiscutable. Je pense que pour... c'est dommage d'ailleurs que l'Europe n'en ait pas aussi autant conscience, puisqu'on on évoque toujours... Moi, je suis toujours très scandalisé, par exemple, qu'on apprenne encore dans les livres que l'imprimerie a été inventée par Gutenberg. Je vous le rappelais que le premier livre imprimé date de cette période. Il a été trouvé dans cette grotte.
Comment avez-vous travaillé, Jean-Marc Bonnet-Bidou ? Quelle était l'équipe ? On soupçonne effectivement qu'il a fallu de bonnes connexions avec la Chine en particulier. Lorsque vous parlez de caractère manquant, il faut être sinologue et chinois, je dirais, pour le compte.
Bien évidemment, et c'est un travail de 8 ans, pour tout dire. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis le temps où j'ai pris contact avec la British Laboratory, qui entre parenthèses, très gentiment, m'ont non seulement ouvert, mais m'ont transmis une version numérisée du document, ce qui est une opération que l'a fait la British Laboratory, de numériser tous ces documents de Douhuang, de façon à les rendre disponibles. Alors, on s'est entouré effectivement de différentes composantes. On a cité en début d'entretien effectivement les historiens des sciences. Moi, j'avais eu connaissance du laboratoire d'histoire des sciences de Pékin quand j'étais à Pékin, donc j'avais gardé des contacts. Ça m'a permis d'avoir aussi la vision chinoise sur cette carte, parce qu'effectivement, la vision européenne peut être un peu différente. J'ai travaillé avec des gens comme Marc Kalinowski, qui est effectivement de l'école des hautes études, qui est un grand, grand spécialiste de l'astronomie chinoise, notamment dans sa période, dans sa caractère divination. Et on a travaillé avec les gens de la British Library pour tout ce qui est la conservation, l'étude. Là où on est en bagarre avec eux, c'est qu'en fait, j'aimerais dater le papier au carbone 14.
Qui nous donnerait. Prendre un morceau.
Voilà,
hein.
Voilà. Et alors, ils ne veulent pas nous céder un morceau. Ouais. C'est un petit bagarre. Ouais. Mais sinon, donc, tous ces gens, y compris des gens très, très, disons, pointus dans la langue ancienne chinoise, ceux, évidemment, qui nous ont aiguillés sur ces caractères tabous, évidemment, leur contribution a été essentielle.
À votre avis, il reste encore des choses à découvrir dans les musées. Par exemple, cette histoire est quand même instructive de la nécessité qu'il y a peut-être d'avoir des scientifiques qui regardent les collections.
Ah, je crois que c'est indispensable. Je suis sûr, absolument certain, après cette expérience et de nombreuses autres, parce que ayant été en Iran et ayant visité certaines bibliothèques, me rendant compte de la masse de documents qui y sont, qu'il existe encore des documents très précieux qui sont conservés, dont nous n'avons pas connaissance du contenu, simplement parce qu'ils n'ont pas été lus et analysés. Parfois pour des problèmes de discipline croisée, si vous voulez. Par exemple, en Iran, qui est effectivement la deuxième charnière très importante de l'histoire de l'astronomie, cette période islamique, les textes sont écrits en arabe et c'est en Iran qui est en langue persane, où les gens parlent le perse, enfin l'iranien qui est le dérivé. Donc peu de gens savent lire. Là, c'était la British Library. Il y a quand même pas énormément de spécialistes de la Chine à British Library. Vous voyez, donc c'est un petit peu le problème que posent les documents. Je suis certain, c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire des sciences. D'ailleurs, sinon on aurait l'impression qu'on refait toujours le même travail. Là, ce document, effectivement, à ma grande stupéfaction, eh ben, il était passé devant tout le monde sans que personne n'ait réalisé qu'il y avait cette étude à faire. Il y en a bien d'autres. Moi, je vais m'attaquer tout de suite, effectivement, à d'autres documents chinois qui n'ont pas été expertisés du côté scientifique, d'autres cartes, parce que la même méthode peut être appliquée à d'autres cartes, et puis probablement peut-être une autre découverte autour au détour de ces recherches.
Merci Jean-Marc Bonnet-Bidou d'être venu nous parler de cet ancêtre des cartes célestes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode.